Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici dans la poursuite de notre chemin de compréhension des sept péchés capitaux. Je vais traiter ce soir un quatrième péché capital. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Avant cela, nous allons prendre un chant en demandant à Dieu de ne pas nous traiter selon nos péchés et de nous permettre ainsi d'avoir accès au pardon. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Et je commence toujours aussi par un passage de la parole de Dieu. Tout simplement celui que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile, quand le scribe qui parle à Jésus essaie de résumer, de se réapproprier ce que Jésus a dit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Juste un petit commentaire. Ce que dit le scribe et que Jésus considère comme une remarque judicieuse, c'est que nous ne devons pas imaginer que ce sont les choses que nous faisons pour Dieu de manière un peu extérieure qui comptent, mais c'est ce qui vient de notre cœur. L'amour, c'est ce qui jaillit de notre cœur. Les holocaustes, les offrandes d'holocaustes et de sacrifices, c'est ce qu'on offre à Dieu extérieurement. Ce qu'on faisait en particulier du temps de Jésus, lorsque on offrait des animaux dans le temple de Jérusalem pour qu'ils soient offerts en sacrifice. C'était l'habitude et cela a du sens à condition simplement qu'on n'en reste pas à cet acte purement extérieur. Et donc ça nous éclaire sur la manière dont nous vivons le carême. Le carême, ce n'est pas la multiplication de gestes extérieurs, mais le fait que nous cherchions toujours plus à aimer Dieu et notre prochain, tout en acceptant que ça puisse passer par des actes extérieurs à nous. Mais l'essentiel, c'est l'amour avec lequel nous le faisons. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ces entretiens de carême, vous savez, je ne parle pas de conférence de carême parce que je ne veux pas rivaliser avec Notre-Dame de Paris. Mais donc, les entretiens de carême, nous voyons au fur et à mesure les péchés capitaux. On en a vu déjà trois. Nous avons parlé évidemment de l'orgueil, nous avons parlé de l'avarice, de la gourmandise. Rappelez-vous, c'était la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'ai voulu, gardant un ordre d'ailleurs qui est proposé dans certaines descriptions, j'ai voulu vous parler de la luxure. La luxure, vous voyez, dès que je prononce le mot, les gens sont paralysés. Luxure. Oh, c'est un mot qui fait peur. C'est une réalité même qui fait peur. Alors, ce que je vais vous dire ce soir a deux objectifs. Le premier, c'est d'accepter que ce soit considéré vraiment comme un péché capital. La deuxième chose, c'est que nous évitions de nous focaliser sur ce genre de péché comme s'il n'y avait que cela. Parce que c'est un peu l'expérience que nous pouvons faire parfois comme confesseurs. On voit des gens qui, évidemment, viennent se confesser de péchés qui touchent à la chair. Mais après, on leur dit, vous voyez d'autres choses ? Non, c'était surtout ça dont je voulais parler. Pourquoi ? Parce que ces péchés, en fait, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, ces péchés nous touchent profondément. Ce ne sont pas nécessairement les péchés les plus graves, je le précise. Je pense que tuer quelqu'un, c'est un péché plus grave que les autres. En tout cas, pour le réparer, vous pouvez vous lever de bonne heure, hein, parce que, à moins de ressusciter la personne, vous pouvez pas faire grand-chose. Les péchés qui touchent la chair, les péchés que l'on qualifie de luxure, ne sont pas nécessairement les plus graves, mais ils touchent à notre intimité. Et donc, d'une certaine manière, ils nous touchent de près. Alors, qu'est-ce que c'est que la luxure ? Eh bien, c'est un usage désordonné qui nous conduit vers les plaisirs sexuels qui ne sont pas liés à l'expérience authentique de l'amour. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit, hein. Donc, ce sont des actes ou des pensées qui, en fait, nous font passer à côté du sens profond de la sexualité. Pourquoi ? Eh bien parce que, je vais le décrire un peu plus, c'est parce qu'en fait, il nous enferme sur la dimension jouissive de la sexualité, sur le plaisir qu'on va en tirer. Et ainsi, au lieu que le plaisir qui est attaché à la sexualité soit un moyen pour chercher une fin, donc soit dirigé, orienté vers autre chose, eh bien, à cause de ces péchés, le plaisir devient une fin en soi. Il est recherché pour lui-même. Première chose aussi que je dis tout de suite, c'est que le plaisir lié à la sexualité n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. La sexualité n'est pas quelque chose de mauvais. Ça serait quand même un peu bête qu'on était conçu par un truc mauvais. Voilà. Quand on a été conçu par nos parents, ils avaient bien conscience de faire quelque chose de beau. Donc, la sexualité en soi est quelque chose de positif et quelque chose de voulu par Dieu et quelque chose qui est non seulement voulu par Dieu, mais que Dieu bénit particulièrement. Voilà, il faut bien que nous ayons ça présent à l'esprit. Parce que sinon, nous entrons dans une sorte de moralisme qui n'a pas lieu d'être, ou une sorte de puritanisme qui n'a pas lieu d'être non plus, mais malheureusement qui a été, l'habitude de beaucoup de personnes, malheureusement, qu'on a enfermées dans ce carcan. Donc déjà, se rendre compte que la sexualité est quelque chose de beau, est quelque chose de bien, et que le plaisir qui est attaché à la sexualité est quelque chose qui est voulu par Dieu. Mais du coup, ça nous donne un peu déjà des pistes de compréhension. Parce qu'en fait, dans la réalité, frères et sœurs, dans la réalité, la sexualité, c'est quelque chose de magnifique, de magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est la manière probablement la plus haute, la plus adaptée de manifester l'amour qu'on a pour quelqu'un. Voilà. Si des gens s'unissent, c'est parce qu'ils expriment à travers cela, En tout cas, ils sont censés exprimer à travers cela la vérité, la profondeur, la beauté de leur amour. L'autre chose, je ne veux pas trop le passer sous silence évidemment, c'est que l'acte sexuel est aussi le moyen par lequel la vie est transmise. Comme je le dis souvent, on ne transmet pas la vie en se frottant les oreilles. Enfin, l'un l'autre, évidemment. Hein. Autrement dit, vous voyez que la sexualité a deux finalités, a deux objectifs. La communion des personnes, l'expression de l'amour, et deux, la transmission de la vie. C'est extraordinaire quand on y pense. C'est fabuleux, magnifique. Et parce que c'est fabuleux, parce que c'est magnifique, parce que c'est précieux, parce que c'est quelque chose d'incroyable, ça peut être le lieu de toutes les déformations, de toutes les caricatures qui peuvent exister. Vous voyez, c'est parce que c'est quelque chose de très beau que c'est quelque chose qui peut être vécu de manière très mauvaise. Voilà, comme toujours dans l'expérience humaine. Ce qui est très très beau peut être évidemment parfois mal vécu. Alors, je passe par un exemple biblique pour parler de ça. L'exemple biblique, c'est celui du roi David, ce bon roi David. C'est quand même quelqu'un de bien, David, hein, c'est, voilà. Je signale que Jésus, on l'appelait fils de David, hein. C'est dire à quel point il est un personnage marquant de l'histoire d'Israël. Et puis David, il a des côtés très beaux, enfin très très attachants. Voilà, mais, il est sur la terrasse de son palais un soir, à Jérusalem, il se penche en contrebas, et qu'aperçoit-il sur une terrasse pas très loin, une jeune femme magnifique. Magnifique. Bon, il aurait pu dire « Béni sois-tu, Seigneur, pour la beauté de la création ». Mais il ne s'arrête pas là, puisque vous savez qu'il va demander qu'on aille chercher cette femme, il l'a fait monter dans son palais, il couche avec elle, et en plus, il conçoit un enfant. Voilà. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle ne s'arrête pas là. Parce que manque de chance, le mari de cette femme, qui était un général, Uri le Hittite, est en train de combattre pour David. Pour David, au nord du pays. Alors évidemment, comme il n'est pas à Jérusalem, c'était un peu embêtant que sa femme soit enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, David se dit, il y a une seule solution, je vais lui faire prendre une perme, il va venir à Jérusalem, il va s'amuser un tout petit peu, il va coucher avec sa femme, et le problème sera réglé. Sauf que Uri n'est pas comme ça, il vient à Jérusalem, et il se dit, mes soldats sont sur le front, moi je ne vais pas me donner du bon temps maintenant à Jérusalem. Et donc il dort avec les soldats. Raté, mince, il repart sur le front, et là David, désemparé, se dit bon, il n'y a plus qu'une seule solution, donc il écrit une lettre pour l'autre général qui est là-bas, il lui dit, ben voilà, quand vous allez vous battre, vous mettez Uri en tête, et puis dès qu'il sera bien placé, vous vous reculez tous, comme ça il sera le premier à être tué. Et là, vous comprenez tout à coup pourquoi ce péché est un péché capital. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y a David qui a regardé avec concupiscence cette femme, qui l'a désirée, qui a commis l'adultère, puisque cette femme, elle est mariée, qui conçoit avec elle un enfant, qui veut dissimuler ce qui s'est passé, qui veut, d'une certaine manière, tromper le général en le faisant venir à Jérusalem. Et comme il n'obtient pas gain de cause, eh bien il arrive à la solution extrême, faire tuer le gêneur. Voilà, on fait tuer le gêneur, comme ça on est tranquille. Alors, c'est bien qu'on nous ait raconté ça dans la Bible, hein, parce que, vous savez, la Bible, elle dit les choses comme elles sont, hein, elle ne tourne pas autour du pot. Hein, voilà, et donc on dit les choses comme elles sont. Et David est très tranquille, hein. Il a tué son général en chef, il est très tranquille, voilà. Il va épouser la veuve pour montrer qu'il est quand même quelqu'un de très gentil, qu'il prend soin de la veuve, tu parles, oui. Heureusement, il y a le prophète Nathan. Et le prophète Nathan va voir David, il dit, ben voilà, je vais te raconter une petite histoire. Il y a un homme qui avait une petite brebis, elle était aimée dans toute la famille. Il l'aimait tellement, cette petite brebis, qu'elle dormait avec eux, elle dormait dans son lit. Oh là, quelle merveille. Puis à côté de lui, il y avait un riche propriétaire qui avait plein de brebis. Arrivent des amis, eh bien, au lieu de prendre une de ses brebis pour le festin, il prend la brebis de celui qui n'en a qu'une. Et là, David dit, il doit mourir cet homme. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Vous voyez, c'est extraordinaire la Bible. C'est-à-dire que, en fait, l'homme n'est pas conscient de son péché. Et parfois, il y a besoin de choses un peu extérieures, comme l'intervention du prophète Nathan, pour pouvoir dire, cet homme, c'est toi. Voilà. Je trouve que cet exemple que j'ai essayé de raconter comme ça, en fait, est évidemment tragique, hein, puisque la concupiscence de David l'a conduit finalement à accepter la mort de son général en chef. C'est monstrueux quand on y pense, finalement, même si je l'ai raconté comme ça. De fait, c'est terrible. Alors, il se trouve que Jésus en parle. Jésus ne parle pas beaucoup de sexualité dans l'Écriture, enfin dans l'Évangile. Vous avez remarqué, il en parle même très très peu, à vrai dire. Alors, il parle de l'adultère, ça oui, mais sinon il ne parle pas de grand-chose. Mais, il parle quand même de ce que fait un homme qui regarde une femme en la désirant. Il dit, cet homme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Oh là là ! Ah ouais ! Alors je rassure toujours les gens, enfin je rassure, je rappelle simplement que ce que dit Jésus, ce n'est pas quelqu'un, un homme qui voit une femme. C'est quelqu'un qui la désire. C'est pas tout à fait la même chose. J'explique cette distinction qui est pour moi fondamentale, et qui vaut pour tout le monde, hein. Cette distinction fondamentale, c'est ressentir et consentir. Ressentir, consentir. Je suis un homme. Je vois une belle femme. Ça me touche. Il n'y a rien de scandaleux à ça, hein. Rien de scandaleux. Je ressens quelque chose. Maintenant, je vais continuer à penser à elle, à commencer à fantasmer dans ma tête. Ah ben là, je ne suis plus dans le ressenti. Je suis dans le consenti. Je consens. Je prends toujours l'exemple aussi, enfin, je prends souvent l'exemple de cet homme qui arrive devant un kiosque à journaux et il voit une affiche d'un magazine avec une femme presque nue, évidemment en grand format, la photo de cette femme, voilà, qui est donnée à voir. Alors, il voit ça, il est marqué. Et du coup, il s'en va. Et puis il s'arrange pour repasser devant devant le kiosque. Et puis après, il fait croire qu'il a un rendez-vous. Donc il regarde sa montre. Et paf, il regarde à nouveau. Eh bien, il a consenti, évidemment. Donc c'est très important. Qu'il ait été marqué une première fois en voyant ce qu'il a vu. Moralement, c'est neutre. Ça n'a pas d'importance. Moralement, c'est neutre. Maintenant, les efforts qu'il fait pour rester à proximité du kiosque et pour repasser devant l'image, ça, c'est lui qui décide de le faire. Et donc, ressentir n'est pas consentir. C'est important dans ce domaine, parce que vous voyez, la luxure, elle commence par le regard. La luxure commence par la manière que j'ai de regarder les autres, l'autre. Et c'est ça qui change tout, en fait, hein. Alors, je vais continuer parce que cette luxure, elle réveille en moi un désir qui est là, d'accord, il est là. On peut dire presque un désir primaire. Oserais-je dire, je ne sais pas si je vais le dire, hein, un désir bestial. C'est-à-dire qu'il fait référence à la partie la plus primaire de mon être. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Il s'agit pas de rêver des gens qui sont dans les nuages et qui n'ont aucune tentation. La réalité, c'est que il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, c'est l'enjeu de la publicité, hein. Si on vous vend une voiture avec une femme à côté, c'est parce que la femme avait aidé avant la voiture, hein. Enfin, en tout cas, le gars, il va s'arrêter pour regarder la voiture. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est présent, mais qui est encore contrôlé, heureusement. Et puis, petit à petit, on accepte de donner consistance à cela. Et en acceptant cela, on accepte de perdre le contrôle de sa liberté. Parce qu'évidemment, plus je me rends vulnérable par rapport à tout ça, plus je me donne, en quelque sorte, l'occasion de tomber. Alors, je me permets d'évoquer quelque chose qui, malheureusement, est un drame absolu, et quelque chose qui est terrible, je trouve, évidemment, hein, c'est la pornographie. Pornographie, vous savez que peut-être qu'en grec, le mot porneia, ça veut dire la luxure. C'est du grec, en fait, hein, porneia, la luxure. Et donc, la pornographie, c'est quoi? C'est mettre en scène la luxure, c'est-à-dire l'activité sexuelle, c'est-à-dire les ébats sexuels, ou même des situations où la personne est toute seule. Mais tout ça pourquoi? Parce que ça a pour but de rendre plus fort encore le désir et de rendre l'homme ou la femme de moins en moins capable de contrôler ce désir. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment dramatique la pornographie. Pour vous dire la vérité, je pense que beaucoup de gens sont victimes de cette réalité. C'est-à-dire que ils y ont goûté, ils se sont laissés prendre et ils ne savent plus comment s'en dépatouiller. Et donc souvent, vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui, plus qu'avant, plus que quand j'avais 20 ans, on parle beaucoup des addictions. Hein, c'est-à-dire, avant on disait, vous savez, des péchés habitudinaires. Un jour j'ai prononcé ce mot en confession, la personne m'a dit, c'est que ça veut dire quoi? Donc habitudinaire, ce sont des péchés qui sont liés à l'habitude. J'ai tellement pris l'habitude de faire quelque chose que je suis pieds et mains liés. Voilà, je ne sais plus comment m'en sortir. Et donc, les péchés habitudinaires, ça donne aujourd'hui, je pense, cette conception qu'on a des choses, parce qu'on a affiné, bien sûr, les processus psychologiques, c'est ce qu'on appelle l'addiction. Alors, je précise toujours que quand on est victime d'une addiction, le péché qu'on commet est moins grave que si on n'était pas victime de cette addiction. Donc, l'addiction, en quelque sorte, rend moins grave et moins profonde la décision de l'homme ou de la femme qui décide de pécher. Donc, la pornographie, c'est vraiment monstrueux. Pourquoi? Parce que, un, c'est du voyeurisme. Excusez-moi, mais moi je passe pas mon temps derrière ma fenêtre en train de regarder, surtout qu'en face de moi c'est les prêtres, donc je vais pas regarder, hein. Et donc je passe pas ma journée à regarder derrière ma fenêtre, derrière le rideau, pour voir ce qu'il y a. Klochmer, ça vous dit quelque chose? Peut-être c'est un roman qui a été écrit il y a très 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 longtemps. Et dans ce roman, il y a une demoiselle, enfin une vieille fille, qui s'appelle Justine Putet. Elle porte bien son nom. Et on a construit des pissotières près de l'église, pas très loin de chez elle. Et toute la journée, elle surveille pour savoir quels sont les hommes qui vont aux toilettes, enfin qui vont aux urinoirs. Bon. Donc la pornographie, ça transforme les gens en des voyeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils regardent quelque chose qui normalement ils ne devraient pas regarder. Bon. Deuxièmement, et vous allez vous comprendre comment petit à petit j'affine les choses. En fait, la pornographie, elle fait désirer des corps, pas des personnes. Il y a un sociologue qui a fait remarquer que dans les films pornographiques, on voit très peu, le visage des gens. Parce que les gens qui sont filmés ne sont déshumanisés. Ce qui intéresse, c'est la partie de leur corps qui a été, en quelque sorte, mise en avant, mise en relief. Et du coup, qui a été érotisé, et du coup, on regarde non pas des personnes, mais des corps. C'est-à-dire qu'on instrumentalise des personnes pour en faire des objets. Des objets de quoi? De jouissance. Et dans tout ça, évidemment, inutile de le vous dire, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il y a du sexe, mais il n'y a pas d'amour. Vous vous rappelez tout à l'heure la définition que je vous ai donnée de la luxure, c'était le fait que ce sont des actes désordonnés qui ne visent que la jouissance, que le plaisir sexuel, en oubliant les vraies finalités de la sexualité, qui sont l'amour et la communion des personnes et le don de la vie. Dans la pornographie, il n'y a pas d'amour. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des générations, alors je pense en particulier d'adolescents, de jeunes adultes, se nourrissent de cela, et en fait, qu'est-ce qu'ils apprennent? À être des voyeurs, à objectiver le corps des personnes, c'est-à-dire à en faire des objets de jouissance, et trois, tout ça sans amour. Et du coup, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Enfin, tout ça nous permet de relire un certain nombre de choses. Par exemple, pourquoi l'Église s'acharne-t-elle, non, elle le fait comme elle peut, hein, à conseiller aux jeunes de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage? Je vais vous dire un truc, ça fait 36 ans que je suis prêtre. Si je disais aux gens, écoutez, faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, ça serait 10 000 fois plus simple pour moi. Hein. Honnêtement, je botte en touche et je laisse les jeunes se dépatouiller. Mais dans la réalité, l'Église est pleine de sagesse. Comment voulez-vous qu'un acte sexuel qui est fait le soir même où on a connu quelqu'un soit un tant soit peu un acte d'amour? Il faut arrêter, quoi. C'est du mensonge. On se ment à soi-même et on ment à l'autre. Vous comprenez? Ce qui est en jeu dans tout ça, c'est de faire, je le rappelle, de la sexualité l'expression la plus belle et la plus élevée de l'amour humain. Si j'ai une relation sexuelle avec la personne que j'ai rencontrée le soir en buvant des verres avec elle et en étant à moitié pété, excusez-moi, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe pas grand-chose. Hein. Et donc, l'Église a raison, enfin, elle a raison de le dire, elle a raison de le conseiller. Comme vous le savez, il n'y a pas de police politique dans l'Église. Hein. On n'est pas en train de ficher les gens pour savoir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Hein. Donc, c'est des conseils qu'on leur donne. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Je m'amuse toujours avec les gens qui viennent, qui sont, vous savez, dans une situation de construction d'une relation amoureuse, et parfois sont allés un peu loin. Bah bon. Alors, je m'amuse toujours. Je leur dis, voilà, vous avez décidé de construire une maison. Très bien. Vous avez acheté un terrain. Paf! Très bien. Qu'est-ce que vous faites après? 99% des réponses, eh bien, on fait les fondations. Je dis, ah bon, vous faites les fondations, mais vous ne savez pas où vous allez. C'est n'importe quoi. Vous allez voir d'abord un architecte pour faire le plan de la maison. Comment voulez-vous construire si vous ne savez pas où vous allez? Donc, réfléchissez à votre relation. Excusez-moi, mais vous êtes dans la période encore où vous êtes en train de faire un plan. Et ce plan, par définition, ce n'est pas la réalité. Donc, il faut que vous acceptiez de poser les fondations un peu plus tard. Voilà. J'ai parlé. Non, mais dans l'espoir que ça fait réfléchir. Et donc, voilà, la pornographie, vous savez, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et sans oublier les gens qui sont employés dans ce genre de choses et qui sont payés pour faire ce qu'ils font, sans oublier le fric que gagnent ceux qui montent ce genre de programme. Puisque vous le savez, comme toujours, évidemment, la pornographie, c'est très bien fait. Enfin, je ne dis pas ça parce que je la regarde, mais parce que je lis. Alors, voyez, par exemple... Non, mais c'est pour que vous ne fassiez pas de confusion. Voyez, par exemple, au début, on fait un truc, j'allais dire, un peu au ras des pâquerettes. Très bien. Mais à force, c'est un peu toujours la même chose. Donc, on dit, ben non, il faudrait faire un peu plus. Puis Puis la troisième étape, ah ben si vous voulez un peu plus, il faut payer. Et les gens, comme ils se sont habitués à vivre ça, ben ils sont prêts à payer. Évidemment qu'ils sont prêts à payer, surtout que ce n'est pas des sommes énormes. Puis après, c'est un peu plus cher. Donc en fait, tout ça, c'est une histoire de fric. C'est une histoire de fric, c'est tout. Voilà. 15% des enfants de 9 ans, 15% des enfants de 9 ans ont déjà accès à la pornographie. C'est incroyable. Incroyable. Avec, en plus pour eux, l'incapacité probablement de déchiffrer les choses, puisqu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour le faire. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, la luxure est un grand mensonge. Pourquoi ? Parce que ça promet quelque chose, mais en fait, ça ne donne pas. Ça promet quelque chose qui, en fait, se révèle être une illusion. Et c'est pour ça que c'est tellement, important d'être, en quelque sorte, éveillé à tout cela. On pourrait se dire, bon, ben, c'est pas grave, les gens font ce qu'ils veulent. Mais non. Vous pouvez pas laisser voir quelqu'un en train de couler sans lui tendre la main. Si vous voyez que la personne est en train de faire n'importe quoi, il faut essayer de lui venir en aide. Alors, je sais bien que c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Moi, ce que je trouve merveilleux, en tout cas, c'est que des gens aient le courage de venir se confesser. Pour ça. Bon, pour avoir menti, oui, sûrement, pour avoir été en colère, oui, d'accord. Mais des gens qui arrivent à se confesser de ce genre de choses, de la luxure. Moi, je dis, vous êtes formidables. Vous êtes vraiment formidables. Vous vous rendez compte l'humilité que vous avez pour pouvoir être capable de demander pardon à Dieu, alors que c'est tellement humiliant pour vous. C'est fabuleux, vous êtes formidables. Je me rappelle un garçon, un jour, qui avait 18 ans, et qui vient se confesser. Alors, c'était pas ici, vous ne le connaissez pas. Et qui vient se confesser, et qui me dit, Père, il y a quelque chose dont je ne me suis jamais confessé depuis l'âge de 13 ans. Alors, j'ai dit, mais écoutez, tant mieux. Et donc, évidemment, il s'est confessé de s'être masturbé, d'avoir pris l'habitude de se masturber. Et moi, je dis, mais c'est fabuleux que vous soyez là aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Enfin, vous pouvez parler de ce truc qui vous démolit, qui vous enferme dans votre silence, qui fait que vous êtes mal à l'aise, parce que vous savez bien que c'est pas bon et que vous êtes perdu avec ça. Enfin, merci mon Dieu. Vous savez, l'Église fait beaucoup de bien, hein. Si on n'en était pas convaincu, je pouvais dire que l'Église fait beaucoup de bien. Pas seulement dans ce domaine, mais aussi dans ce domaine. Et donc, cette capacité d'en parler, cette capacité d'exprimer les choses est très importante parce qu'elle permet enfin de sortir de cette espèce d'isolement dans lequel on peut facilement s'enfermer. Ce qui est le pire. Et comme le temps passe, je vais essayer d'évoquer par rapport à ce péché des remèdes possibles. Parce qu'il y en a, évidemment, hein. Il y a des remèdes. Première chose, très importante, nous pouvons être focalisés sur ce péché, et cela n'est pas juste, parce que notre vie ne se limite pas à cela. Par exemple, des personnes peuvent venir se confesser de la masturbation, qui est un péché de luxure, qui est vécu tout seul, mais qui est quand même un péché. Pourquoi c'est un péché ? Bah, parce que l'amour humain, il est fait pour être vécu à deux, hein. Évidemment, tout seul, ça s'appelle pas de l'amour humain. Tout seul, ça s'appelle la jouissance, tout seul. Voilà. De même que l'amour humain, il n'est pas fait pour être vécu à trois ou à quatre, hein, je rappelle. Et donc la réalité, c'est que j'essaie de dire aux gens que, bien sûr, il y a cette réalité du péché, bien sûr, c'est bien, enfin, c'est bien de le reconnaître. Mais la vie ne se limite pas à cela. Alors, j'ai ma formule, hein, je dis aux gens, la plupart du temps, vous avez une vie chaste. La plupart du temps, vous avez une vie chaste. Et ça, c'est précieux. Ne pensez pas que un manquement dans ce domaine démolit toute votre vie ou anéantit tout ce que vous avez essayé de construire. Heureusement, il n'y a pas que cela dans votre vie. Deuxième chose qui me paraît aussi très importante, il faut bien comprendre que si la prière peut être utile, elle n'est pas toujours, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais elle n'est pas toujours parfaitement efficace. Pourquoi ? Mais parce que je prends quelqu'un qui va prier pour ne pas coucher avec sa fiancée ou je ne sais qui, et qui va prier pour ça, il va dire le chapelet, il a le chapelet dans la poche, mais au moment où il dit le chapelet, en même temps, il pense à la fille qu'il va aller voir. Et donc, si vous voulez, la fille est plus forte que le chapelet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où notre conscience rend pratiquement impossible le fait de prier. Sinon, ça se saurait. Et c'est pas Dieu qui est responsable de ça, hein. C'est pas la faute de Dieu, hein. C'est que nous sommes divisés. Et donc, en même temps, nous voulons prier, et puis en même temps, voilà, nous sommes attirés. Donc, c'est compliqué. Et donc, il faut accepter qu'il y ait d'autres manières de lutter que simplement la prière. Même si c'est bien de prier. Alors, une chose que je dis toujours, c'est que la chasteté est une vertu. Et cette vertu, je la reçois pour aujourd'hui. Je ne la reçois pas pour demain, je ne la reçois pas pour 6 mois, je la reçois pour aujourd'hui. Et dans ce domaine, il faut accepter de vivre dans l'aujourd'hui que Dieu me donne. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce aujourd'hui d'être chaste. Très bien. Et donc, demain, ça sera un nouvel aujourd'hui, et je dirai à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi d'être chaste. Et puis après-demain, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi d'être chaste. Je ris toujours quand des fiancés me disent, oh là là, quand on pense qu'on est marié pour 80 ans maintenant, parce qu'on vit vieux, hein, ou 70 ans. Alors je dis, ne pensez pas à 70 ans, c'est inimaginable. On ne peut pas se représenter ce que ça fait 70 ans. D'abord parce que vous ne les avez pas, évidemment. Et donc, alors je dis souvent, pensez que vivre avec l'autre, être fidèle à l'autre, c'est pour aujourd'hui. Et demain, parce que vous l'aurez vécu aujourd'hui, vous demanderez la grâce d'être fidèle pour aujourd'hui. Autrement dit, la réalité, nous devons la vivre dans le présent. Toutes les réalités importantes, il faut les vivre dans le présent. Inutile de commencer à supputer ce que sera demain, après-demain, après-demain. Ça sert à rien. On ne le sait pas. Donc pourquoi le faire ? Et donc il faut s'enraciner dans le présent. Troisième chose que je voulais vous dire, la luxure, c'est un péché, quelles que soient les formes qu'il peut prendre. Hein. La luxure, c'est un péché qui me centre sur moi-même. En fait, tout à coup, je suis complètement centré sur moi et évidemment sur le plaisir, la jouissance que j'espère pouvoir vivre. Autrement dit, c'est de l'égoïsme intégral. Et donc, comment lutter contre l'égoïsme ? Eh bien, en s'ouvrant aux autres. Tout simplement. Vous voyez, quand je suis préoccupé par des tentations qui touchent à la chasteté, quand je suis tenté par la luxure, je commence par me centrer sur moi-même. Et en fait, que dois-je faire à ce moment-là ? C'est me décentrer de moi-même. Et par exemple, prier ou offrir le combat que je mène pour telle ou telle personne. Tiens, je connais telle personne qui est à l'hôpital et qui va avoir une opération. Je connais telle personne qui vit un moment très difficile dans sa vie. Et j'offre ce combat que je mène, qui n'est pas facile peut-être, mais que je l'offre pour cette personne, pour cette attention. Autrement dit, je me décentre de moi-même. Tout ce qui me permet de me décentrer de moi-même, c'est gagné. C'est gagné. Je ne sais pas si je dois le dire, mais si, je vais le dire quand même. Hein. Quand j'étais au séminaire, j'avais un ami séminariste qui dormait avec des gants de boxe. Et alors, Un jour, il dit ça, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, il me dit, c'est pour livrer le vrai combat. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, tu te bats contre personne dans ton lit. Il me dit, ben, ça pourrait être contre moi-même, et donc avec les gants de boxe, je suis sûr de ne pas faire de bêtises. C'est pas bête. C'était drôle. Vous voyez, entre séminaristes, on se donne des trucs. Et puis, la dernière chose, c'est ne jamais se résigner, ne jamais baisser les bras. Dieu ne baisse jamais les bras. Et donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas nourrir de sentiments mauvais contre soi. Il ne faut pas se mépriser. Il ne faut pas s'en vouloir inutilement. Tout ça, ça ne sert à rien. Le but, ce n'est pas de s'en vouloir. Le but, c'est de trouver les moyens qui m'aident à vivre, effectivement, cette proximité avec Dieu, dans laquelle je sais que le Seigneur m'aide et dans laquelle, petit à petit, j'apprends à avancer. Donc, ne jamais se décourager. Jamais, jamais, jamais. Et comme je dis souvent, le fait de ne jamais se décourager, c'est déjà une victoire. Bien sûr, je vais peut-être tomber, d'accord, mais je ne vais pas en rester là. Et Dieu me donne la victoire, en particulier quand je me confesse. Donc Dieu me donne la victoire. Alors je sais que parfois, dans le cadre des confessions, on a un peu du mal à répéter un peu parfois les mêmes choses, surtout quand ça concerne la question de la sexualité. Pourquoi ? Parce que sûrement on a honte. Ça ne nous gêne pas de répéter à chaque fois qu'on ne supporte pas son mari ou sa femme. Mais dire qu'on a eu des problèmes au niveau de la sexualité, qu'on a manqué de chasteté, ça on a du mal à le dire. Je comprends, il y a une honte, etc. Et en même temps, il faut vaincre cette honte. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'accepter de continuer à se battre. L'important, c'est de continuer à vouloir vivre cette chasteté. Et puis, voilà, on n'est pas en train de battre des exploits, on n'est pas en train de battre des records olympiques. On est en train de vivre humblement, humblement, sous le regard de Dieu. Je termine avec la grande dimension qu'est la sexualité. Comme je dis souvent, moi j'en ai pas une très grande expérience, mais quand même, je suis intimement persuadé qu'il se joue là quelque chose de magnifique, dans l'expérience de l'amour humain, vraiment. Et que c'est donc fondé sur l'écoute de l'autre, sur l'attention à l'autre, sur la capacité de se dire les choses et de pouvoir se dire qu'on se donne. En fait, la sexualité, c'est un don de soi. Le problème des hommes, en particulier, c'est que la sexualité peut être une manière de s'accaparer, de prendre possession d'eux. Pourquoi ? Je pense que c'est lié à la manière dont nous sommes constitués, la manière dont nous vivons. Et donc, le danger pour l'homme, c'est de vouloir s'approprier, dominer. Et bien justement, l'apprentissage de la sexualité vécue dans l'amour, c'est l'apprentissage du don de soi à l'autre. Et il faut se dire que c'est pour cela que c'est beau. Et puis, quand vous pensez qu'un tout petit œuf qui s'est constitué dans l'utérus de la femme, un tout petit œuf donne des années plus tard ce que nous sommes, c'est quand même impressionnant. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grand, mon Dieu, qu'est-ce que c'est grand. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.